Ce shiur dédié pour la leçon de l'âme de Mordechai ben Victoria, Léa ben Tamar, Chavia ben Esther, Moshe ben Zahia, Victor ben Zahia, Moshe ben Yitzhak et Tirza bat Léa. Alors la question de Adriel, comment pleurer à Yom Kippour? L'avantage du pleur, c'est qu'on peut pas, on peut pas le provoquer de façon artificielle. C'est une preuve qu'on est sincèrement touché et qu'on est proche de Dieu. Rabbeinu Ari dit qu'il y a Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de pleurer, parce que c'est Yom Tov. Mais que celui qui ne pleure pas malgré lui, son âme n'est pas 100% réparée. Elle n'est pas OK.
Qui
ne
pleure pas malgré lui?
Oui, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se forcer à pleurer, parce que c'est un Yom Tov. Il ne faut pas pleurer à Yom Tov. Mais normalement, un juif qui a une âme juive, lorsque Dieu vient, et il y a un tellement grand éclairage de Dieu à ce moment-là, il est touché et il ne peut pas faire autrement que d'éclater en sanglots. Donc, il ne faut pas, mais quand ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, c'est pas bien.
Non, mais c'est les rabbins qui font la tefila et qui pleurent.
Alors, je te dis, qu'est-ce que je dis maintenant? Je dis, il ne faut pas se forcer. Mais si ça ne vient pas de façon naturelle, c'est très mauvais signe. Ça prouve que son âme n'est pas tout à fait OK. Donc le Rav qui fait la prière, étant donné que c'est un Rav qui est bien, donc il ne peut pas ne pas pleurer. Et il pleure, et c'est très bien. Ça prouve qu'il est, que c'est un bon Rav. Donc en fait, pour répondre à la question comment faire pour pleurer, on ne peut pas faire ça de façon artificielle. Le pleur est provoqué par la sainteté de Dieu qui rentre en nous. L'éclairage de notre nishama. Notre nishama est touché, et ça a répercussion en nous, et on est touché, et on se met à pleurer. Donc la question est comment se purifier pour qu'on soit sensible au message divin, à l'éclairage divin qui vient. Toutes les fêtes, entre parenthèses, toutes les fêtes, il y a un éclairage, une grande lumière divine qui vient. C'est pour ça qu'on appelle ces jours-là Yom Tov. Quoi Yom Tov? Littéralement un jour bon. C'est bizarre. On dit un jour de fête, Yom Chag, un jour de fête. Pourquoi Yom Tov? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Une fois, une jeune fille qui a fait Tshuva, et bon, elle était toute débutante, elle a un chiour, et puis quelqu'un pose une question. La question était comme ça, c'est l'histoire authentique, c'était, elle a toute une femme qui lève la main, c'est la référence de force qui est dans la cour. Est-ce qu'on a le droit de déplacer à Yom Tov une lumière éteinte mais branchée? Bon, elle avait fait un peu d'oulpan, alors elle avait compris Yom Tov, c'est un jour bon. Pourquoi elle demande la question au rabbin? D'abord, si elle peut bouger sa langue chez elle à la maison. On passe à un rabbin, on fait ce qu'on veut, un jour bon. Un jour bon, comme bonjour, d'accord, un jour bon, il fait beau temps, je ne sais pas, est-ce que vous déplacez une lumière éteinte mais branchée? C'est-à-dire quoi, éteinte mais branchée? Bon, elle était tout nouvelle. Ça veut dire que nous sommes déjà habitués à l'appellation Yom Tov, ça ne fait plus rien. C'est normal qu'on appelle Yom Tov, mais si on réfléchit, c'est tout à fait anormal. Il n'y a rien de bien dans ce jour qu'on appelle bon, d'accord? Bon, parce qu'on mange des bons plats. La réponse est la suivante. Chazal, nos sages de mémoire bénie, cache les secrets de la Torah. Secret par définition, il est secret, donc on le cache. Et la raison des mitzvot, elle est secrète. Elle est cachée. C'est très rare que la Torah donne une raison des mitzvot. Très très rare. Ou si on donne, ce sont des raisons qui ont l'air tout à fait des raisons très superficielles comme ça. Et plus la raison a l'air superficielle, tout à fait incongrue, un peu anormale, je dirais, plus ça signifie que le secret qu'il y a dedans, il est grand. On te le cache. Yom Tov signifie un jour de lumière. Pourquoi? C'est la première fois qu'on voit le mot Tov dans la Torah. À propos de la lumière, Vayar Elokim et Taor Kitov. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc qu'est-ce qui est bon? C'est quoi ce qui est Tov? La lumière. Quelle lumière? Pas celle du néon ni du soleil, la lumière de Dieu. La lumière divine, celle que Dieu a cachée pour être Tzadikim, les générations à venir. Dieu a vu, c'est marqué que Hior, quelle lumière? Vayihior. Et il y a eu la lumière. C'est-à-dire qu'elle a eu, il y a eu, c'est passé, il n'y en a plus. C'est-à-dire que Dieu l'a cachée, parce qu'il a eu peur que les personnes. les Rechaïm, les impies, l'utilisent, cette force divine très grande, à mauvais escient, donc il a caché pour les Sadikim des générations à venir. Donc, les jours de fête, il y a une grande lumière spirituelle qui vient. C'est la raison profonde aussi pour laquelle on fait Yom Tov deux jours à l'étranger. La raison superficielle, parce que à l'époque, il y a 2000 ans, ceux qui étaient éloignés de la terre d'Israël ne savaient pas quand avait eu lieu la sanctification du nouveau mois. Le nouveau mois, il peut avoir, un mois peut avoir 29 ou 30 jours, ça dépend quand vient la nouvelle lune, parce que le mois dure exactement 29 jours et demi et environ 40 minutes. Donc 29 jours et demi, c'est-à-dire en moyenne, ça sera 30-29. Et quand il y avait une nouvelle lune, les témoins venaient et sanctifiaient le nouveau mois au temple. Si c'est sanctifié le 30 premier jour, le mois passé a eu 29 jours. Si personne n'est venu le 30e jour, donc le nouveau mois commencera le 31. Donc le mois passé aura eu 30 jours. Et là, ça se fait automatiquement, pas besoin qu'il y ait des témoins qui viennent. Ceux qui habitaient, la majorité des Juifs habitaient à l'époque en Babylonie, à 15 jours de marche de Jérusalem, ne pouvaient pas savoir quand le nouveau mois a été sanctifié. Donc quand la fête venait, il faisait deux jours. Un, peut-être que c'était sanctifié le 30. Deux, parce que c'était censé être sanctifié le 31. Aujourd'hui, on peut savoir, aujourd'hui, déjà à l'époque de Chazal, on s'appelle Hillel HaKatan, le petit Hillel, c'est le descendant de Hillel HaZaken, le vieux Hillel, 10 générations après. Il a fait le calcul de tous les mois qu'il y aura durant toute l'histoire, et il a tous sanctifié à l'avance. Il faut sanctifier le nouveau mois. Il a tous sanctifié tous les nouveaux mois, lui et son Bedin, pour toute l'histoire. Donc on a aujourd'hui un louar, ce n'est pas un louar, un calendrier qui me dit exactement quand est la date, pourquoi on fait deux jours en France. Non, c'est marqué de peur, la Gemara dit de peur que viendra une puissance contre le peuple juif et qui va nous piquer tous les calendriers, on ne saura plus, alors là on devra faire de nouveau deux jours à cause du doute. Bon, ça se peut. Mais bon, tu vois, après 2000 ans quand même, on sait toujours, aujourd'hui avec Internet, tout ça, il y a toujours quelqu'un qui pourra sortir un petit type d'application et me trouver maintenant c'est quand le nouveau mois, d'accord ? Non, on continue à faire deux jours. La raison, donc, elle est un peu bancale. En fait, il y a une raison beaucoup plus profonde qui expose la Kabbalah. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, c'est quoi un Yom Tov ? C'est un jour de lumière. Donc ce jour-là, une grande lumière qui tombe, qui descend. À l'étranger, étant donné qu'il y a tellement d'écrans dus à l'impureté des terres hors d'Israël, il y a de l'impureté là-bas en soi, donc la lumière ne peut pas passer d'un coup. Elle passe que de façon beaucoup plus diffuse, et là il faut deux jours pour que tu reçoives la même somme de lumière qu'on sort en Israël, et encore, c'est la même somme. Une somme suffisante de lumière pour que tu dises que c'est un jour de fête, celle qui te revient à l'étranger, alors il faut deux jours. Ça c'est la raison profonde. Maintenant c'est pas que géographique, c'est la situation de ton âme. Quand une personne juive n'a jamais mis les pieds en terre d'Israël, il n'a que le niveau nefesh. On a trois niveaux, nefesh, ruach, neshama. Il y a plusieurs nefesh, ruach, neshama. On a cinq niveaux. Nefesh, ruach, neshama, chayichedam. Les deux derniers sont tellement hauts qu'on ne les compte pas d'habitude. Donc, on compte nefesh, ruach, neshama. Donc, ces trois-là, ou ces cinq-là, peu importe, sont divisés eux-mêmes en cinq. Tu as cinq parties du nefesh, cinq parties du ruach, cinq parties. C'est narnachi. Narnachi, nefesh, ruach, neshama, chayichedam. C'est initial, narnachi. Narnachi de nefesh, narnachi de ruach, narnachi de neshama, narnachi de chayan, narnachi de yachida. Qui eux-mêmes sont aussi de nouveau subdivisés ainsi en cinq jusqu'à l'infini. D'accord ? Maintenant, une partie du nefesh, on la reçoit automatiquement. La partie supérieure qui est rouach, on la reçoit que si on est venu au moins une fois dans sa vie en terre d'Israël. Parce que ceux qui viennent la première fois, ils ont ce qui s'appelle très, très souvent le syndrome de Jérusalem. Donc une sorte de crise comme ça, ils sont très émus. Ils vont à l'hôpital pour finir. Mais ou à l'aéroport quand ils atterrissent, du coup une crise de larmes, je ne comprends pas, etc. Ou au Kotel, d'accord, on rentre à Jérusalem. Ça arrive à un moment, dans les 24 premières heures, ils ont, coup, c'est l'aneshama qui reçoit, pouf, rouach. C'est le rouach, boum, d'accord, t'es touché. Et ils n'ont pas Neshama. On peut voir le troisième niveau Neshama que si on vient habiter ici en terre d'Israël. Donc ce n'est pas géographiquement. Quelqu'un qui a un Neshama qui va à l'étranger, il fera un jour. Parce que sa Neshama peut recevoir, même à l'étranger, le flux. Celui qui habite l'étranger et qui vient ici, il fera deux jours. Parce que, bien qu'il est en terre d'Israël, néanmoins, il n'a que Nefesh ou que Ruach, il n'a pas Neshama. Donc il n'a pas les moyens, les outils, l'antenne parabolique qui permet de recevoir le flux de lumière que vient ce jour. Je rappelle en passant, une très grande erreur. Il faut comprendre quelque chose ici, je parle un peu de politique. Les cadres religieux, jusqu'à environ 10-20 ans, étaient ashkénazes, en grosse majorité. Les yeshivot étaient ashkénazes. Donc ils ont été éduqués à l'Ashkenaz. Alors Yosef est venu, la rabbinisation de Bachaoul, ils ont commencé à développer aussi le monde Sarad, et maintenant il y a Baruch Hashem, il y a le monde Sarad et le monde Ashkenaz. Mais jusqu'à 10-20 ans, ça n'existait pas un rabbin assez important en France qui soit Sarad. C'est tous Ashkenaz, tous les cadres. Souvent que moi j'étais à mes débuts, d'accord, j'étais un des seuls, d'accord, on me regardait, c'est qui celui-là, d'où il vient hein? En France, qui y avait quoi, les rabbins de l'époque? C'est vrai, peut-être que je parlais il y a plus longtemps, il y a 20-30 ans, il y a 30-40 ans, d'accord. Bon, en tout cas, j'ai des majorités, il y avait des exceptions, mais il y avait une majorité qui était Ashkenaz. Et même ces rabbanim, comme Rav Tzidkiy d'autres, ils ont été éduqués dans le déchivot, Ashkenaz, pas Sarad. Donc très, très souvent, ils ont tranché à la rate comme ils ont reçu, de façon Ashkenaz. Et là, il y a une grande erreur commune, actuelle, que les personnes qui viennent de l'étranger, ici en terre d'Israël, croient qu'étant donné qu'ils habitent l'étranger, qu'ils sont venus juste pour les fêtes, ou juste pour une année d'études, ils doivent faire 2 jours de fête. Grave erreur. S'ils sont mariés et ils habitent en France, effectivement, ils font 2 jours. Mais s'ils sont en âge de se marier, ils ne sont pas mariés, ils sont en âge de se marier, garçon ou fille. La Halakha dit comme ça, son poskim ont tranché tous les grands rabbins sfarad, tous. Rabbi Sonaba Shaoul Zatzal, Rabbi Yosef Zatzal, même le Rav Toledan, le Rav Baruch Rafael Toledan, tous les grands poskim ont écrit cela. On lui pose la question, si maintenant, tu viens ici maintenant juste pour la fête, il arrive un jour avant la fête, repart un jour après la fête. Si tu rencontres ici un Shidour, c'est elle, tu vois, c'est elle. Ou une fille, c'est lui. D'accord? C'est elle. C'est une top modèle. Tsnoua. Ça vient, une pote noire, tsnoua. D'accord? Riche. Elle a un garçon exactement comme toi qui étudie, ou pas, enfin, exactement le métier que tu veux. Son père est milliardaire et elle fait comme ça. Elle aura 3 appartements et 4 voitures. Et t'es amoureux d'elle. Maintenant, tu dis, on se marie, mais à condition qu'on habite Israël. Tu restes ou tu restes pas? S'il dit, je reste, ou s'il dit, je ne sais pas, il fait un jour. S'il dit, je rentre en France. Moi, je rentre en France. Quoi qu'il y ait, je rentre en France. Mais elle est top modèle, elle est milliardaire, elle est snoua, elle est gentille, elle est la fille. Je rentre en France. Alors, l'Halakha dit, il faut le convaincre qu'il a avantage à rester en terre d'Israël. Dans ces conditions. C'est tout hypothétique. C'est si. Il faut dire que dans ce cas-là, il a quand même avantage à rester en terre d'Israël. Et si après tout, il reste borné, il dit, non, je rentre quand même en France, seulement dans ce cas, il fera 2 jours. Mais dans tous les cas où il n'est même pas certain, il fait 1 jour. Et s'il ne fait pas 2 jours, alors il fait des péchés, le Bachot de Batala, parce que c'est un jour de chol pour lui. Il ne met pas de filine, c'est une grave erreur. Donc faire attention, j'annonce cela à tous ceux qui viennent ici, même un jour, s'ils sont sfarad, pour les sfaradim. Sfaradim, non mariés, en âge de se marier, ou divorcés, ou veufs, ou veuves, tous ceux qui sont en âge de se marier, alors pour cette question-là, ils répondraient, je resterai ou je ne sais pas, en tout cas ils ne vont pas répondre, je rentre en France, c'est certain. Alors, il fera 1 jour. Même s'il dit, je rentre vite, pas de temps. Il peut rentrer vite pour vendre son affaire et on peut, d'accord, ou il peut faire des voyages de temps en temps, mais il dit, ok, moi j'accepte de rester ici pour avec cette dame ou la dame avec ce monsieur. Donc, nous allons expliquer maintenant qu'il y a un grand flux qui vient. À Yom Kippour, il y a un très, très, très grand flux qui vient. Yamim Yutsaru Velo Echad Bahem. Le verset, il dit, des jours ont été créés, et à lui appartient un de ces jours. C'est Yom Kippour, à lui, à Dieu. Tous les jours, il y a du Yetzerara. Le Yetzerara, on l'appelle le Sa et le Temps. Il ne faut pas dire son nom, surtout pas le soir, le Sa et le Temps. Le Sa et le Temps, en hébreu, se dit Sa et puis Tan, d'accord? Le Sa et puis Tan, sa valeur numérique, c'est 364. C'est une année moins un jour. Toute année, il a 364 jours par année, il est là. Un jour, il ne peut plus rien dire, il se la ferme. C'est Yom Kippour. Yam Shel Rahamim, c'est écrit à propos de Yom Kippour, une mer de miséricorde. Dieu dit une seule chose, viens, pleure, regarde ce que tu as fait. Le Midrash dit, c'est comme un roi qui a dit à tous les ressortissants de son état, sortez toutes les ordures que je vois à la maison, mais c'est au milieu de la rue, tout ce qu'il y a. Et moi je viens avec la voirie et hop, je prends tout. Rien que tu dis, je regrette, j'ai péché, je pense au moins de changer. Et que tu n'es pas certain, mais tout ce que tu peux faire gagner maintenant, Dieu... Il est heureux de ça. Il nettoie. Il y a une lumière grande qui vient, qui nettoie tout. Pour faire tchouva. Normalement, quand quelqu'un est dans ces moments-là, avec les chants, avec les piyutim, avec les slichot, avec le vidou, de toute la kdoucha tellement grande qu'il y a ce jour-là, s'il n'arrive pas à pleurer, à regretter ses péchés, sincèrement, je ne sais pas si vous voulez dire qu'il faut verser s'il est juif ou pas, mais sa situation n'est franchement pas bien. Qu'il fasse tchouva, qu'il pleure, qu'il n'arrive pas à pleurer. Et qu'il pleure beaucoup. Il faut se préparer. Cette lumière, on ne la reçoit que si on a mis une antenne parabolique. S'il n'y a pas d'antenne, bien qu'il y ait l'émission, on ne reçoit rien. L'antenne, c'est la préparation. On se prépare une fête. On lit sur la fête, on lit du moussard sur la fête, la shkafa de la pensée juive. On fait son bilan annuel. Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'étais l'année passée? Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je prends sur moi de changer? Si on vient relax, il n'y aura rien. Si on vient en tremblant, il y aura beaucoup. Normalement, pour que la tchoua soit totale, il faut prendre sur soi de changer. Quelqu'un faisait une avéra, un péché, il dit ok, ça j'arrête. Un point tel qu'il est marqué que Dieu doit pouvoir venir témoigner lui-même que plus jamais on refera ce péché. Parce que si on retombe, la tchouva rétroactivement n'est pas bonne, elle est bonne. Il faut qu'au moment même où j'ai pris sur moi cette décision, elle était tellement totale que Dieu lui-même qui fait un rayon X, il voit cette décision totale. C'est bon. Dans ce cas-là, c'est une tchouva qui est totale, elle répare tout. C'est pardonné. Mais qui peut me faire maintenant prendre sur lui, sur tous les péchés qu'il y a, c'est certain, plus jamais je me mettrai en colère, c'est certain, certain, plus jamais, ça n'existe plus chez moi. Plus jamais je vais parler à un shonara, plus jamais je regarde une fille dans la rue, plus jamais une seconde de bitul Torah, plus jamais rater une bracha avec kavana dans la Amida. Rien que ce que je dis déjà, il y a encore, hein, il y a 613 avec tous les... etc. Il y a beaucoup, c'est lourd. Alors c'est impossible de prendre, celui qui prend sur lui sur tout, c'est certain qu'il tiendra rien. C'est de la blague. Alors, la méthode est la suivante. D'abord regretter en général toutes nos situations et vouloir se rapprocher de Dieu. Que Dieu voit qu'on veut se rapprocher. Le fait qu'on veuille se rapprocher de Dieu nous fait passer de statut de rachat à tzaddik. Rachat, comme dit le Rambam. Il y a un Rambam qui se voilà ici, bon, je vous dis oralement. Le Rambam il dit dans chapitre 7 des Hilchot Tshuva, il dit que combien grande est Tshuva ? Avant de faire Tshuva, il était appelé rachat. Toeva, horreur. Dieu ne veut pas le regarder. Il priait, on renvoyait ses prières. Vous avez mitzvot, on ne voulait pas voir ses mitzvot. Et maintenant, il a fait tchouva, il est aimé, choyé, chéri. On est avide de ses prières, avide de ses mitzvot. Il a un langage très très beau, le Rambam. C'est à peu près ce qu'il dit, pas dans les mots tout à fait. Cette différence de rachat tzaddik ne provient pas du fait qu'on a fait une tchouva totale. C'est faux. Pas besoin de faire une tchouva totale. C'est faux. Preuve en est. On a Gemara dans Kiddushin qui dit comme ça. Si un rachat, il vient, il donne une bague à une femme, lui dit tu es marié, Kedat Moshe v'Israël, par cette bague, à condition que je sois un tzaddik. À condition que je sois tzaddik. Si pas, c'est un rachat. Il est en boîte hier, il mange du porc, il ne fait pas Shabbat, rien. Normalement, si la condition n'est pas remplie, cette femme n'est pas mariée. Alors, elle dit elle est mariée. Mais c'est un rachat. Il a dit que tu m'es marié qu'à condition que je sois un tzaddik. Or, c'est un rachat. La Gemara dit, peut-être il a eu un hirur tchouva. Peut-être il a eu une pensée de tchouva. Pensée de tchouva. Il n'a pas fait tchouva, il n'a pas fait vidou, il n'a rien fait. Peut-être qu'au moment où il a donné la bague, juste au moment où il a eu un hirur tchouva, une pensée de tchouva. C'est quoi une pensée de tchouva? Il dit, je regrette, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. J'ai envie de faire tchouva. Du moment qu'il a pensé, j'ai envie de faire tchouva, j'ai envie de me rapprocher. Ça, c'est quoi? C'est un éclairage de pureté, de sainteté qui est rentré dans son cœur. Il n'a pas encore fait tchouva. Il a encore plein de péchés, il continue, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais il a envie de s'en sortir. Ça veut dire qu'il a été touché par la lumière divine. Il est touché. Ça en fait déjà, d'après l'Halakha, un tzaddik. Tzaddik! Donc au moins qu'on rentre à Kippour en situation de tzaddik, j'aimerais changer, je regrette, maintenant je prends sur moi ce que je peux. Qu'on prenne au moins sur nous une, deux, trois choses super solides. Une, c'est marqué, une petite super solide, ça c'est certain, on tient pour toujours. Le reste, on fait une bonne tchouva. Le reste, à jamais alors, avec l'aide de Dieu. D'accord? C'est ça. Ça, quelqu'un qui fait ça, normalement, il sera en larmes de joie et de regret. C'est bon, Adriel? Encore une question sur le sujet? On a encore 12 minutes.
Pour la prière, si on ne comprend pas, Et on n'a pas le temps de dire en France sans si on veut faire mon premier vote. Sans penser.
C'est dur. Est-ce que c'est mieux en français en comprenant? Le mieux, c'est de prendre. On a le temps à Yom Kippour.
Ouais, mais déjà qu'elle est longue, elle est si en bouche.
Elle n'est pas si longue. Elle est moins longue que Rosh Hashanah. Beaucoup moins longue. Donc on la fera avec la traduction. Tu lis en hébreu et tu vois ce que tu lis en français auparavant. En plus, c'est les mêmes prières, les 5 fois la même prière. Donc dès aujourd'hui, tu commences à étudier un peu ce que tu vas dire. C'est pas si long. Et comme ça, tu l'as dit en hébreu. Et les vidouilles. Dans toutes les prières de Kippour, il y a la prière, après il y a le vidouille. Vidouille, c'est donc l'aveu. D'accord ? On reconnaît qu'on a payé, on reconnaît qu'on a péché. Ça, il faut comprendre ce qu'on dit. Si on lit, on ne comprend pas ce qu'on dit. Attention à un grand piège à Kippour. D'accord ? Grand piège. La mitzvah de Kippour, numéro 1, c'est la tchouva. Maintenant, est-ce qu'il y a une mitzvah de tchouva, oui ou non ? Discussion de grands rishonim, de grands rabbins médiévaux, le Ramban, Nachmanide, et le Rambam, Maïmonide. Pas Nachmanide, mais ça de Tshuva. D'après Maïmonide, non. Pourquoi ? Parce que c'est quoi Tshuva ? C'est arrêter de faire ce que je ne dois pas faire et faire ce que je dois faire. Tu n'as pas de mitzvah spéciale. Dieu t'a ordonné, tu ne fais pas ce que tu ne dois pas faire et tu fais ce que je dois faire. Il n'y a pas de mitzvah de Tshuva. Depuis tout temps, tu dois faire ce que je te demande et pas faire ce que je demande de ne pas faire. Donc il n'y a pas de mitzvah spéciale de faire. Écoute ce que je te dis. Alors Rambam écrit comme ça, quand on fera tchouva, quand on aura ce désir de se rapprocher de Dieu, on fera une mitzvah de la Torah qui est le vidoui. Ça c'est marqué dans la Torah. Quand un homme et une femme feront un péché, vidvado et tratatem shechato, ils feront le vidoui, l'aveu de ce qu'ils reconnaîtront à haute voix, ce qu'ils ont fait. J'ai péché, je reconnais, j'ai fait ça et ça et ça. Moshe Rabbeinu va intercéder auprès du peuple d'Israël, auprès de Dieu, pour le peuple d'Israël qui a fait les veaux d'or, il dit, ils ont fait un grand péché, Asou Lahem, et le Hezav, ils ont fait un dieu d'or, une idole d'or, d'accord ? Il va expliquer ce qu'ils ont fait. Donc on doit dire, la mitzvah de la Torah est dire, j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça. Beaucoup de gens font toutes les prières de Yom Kippour. Il y en a qui ne font même pas de tchouva. Ils lisent tout, mais il n'y a pas de tchouva. Ils ont raté complètement. Il y en a qui font tchouva. Mais il rate la grande mitzvah de la Torah, il faut penser qu'on fait une mitzvah de la Torah. Quand on fait le vidouille, si on ne pense pas ce qu'on a dit, on rate. C'est marqué que la mitzvah de la Torah, il faut penser qu'on fait une mitzvah de la Torah. Donc il faut penser qu'avant de faire le vidouille, je fais maintenant la mitzvah de la Torah de vidouille. Donc il faut penser ce qu'on dit. Donc il faut penser qu'on fait une mitzvah. Ensuite, pour que ce soit un aveu, je ne peux pas faire un aveu de mots que je ne comprends pas. J'ai blabla, en pleurant, tu ne sais pas ce que tu dis. Donc il faut comprendre ce que tu dis. Maintenant, c'est extrêmement conseillé, c'est impossible de faire autrement, de faire une petite liste personnelle des péchés que moi j'ai faits, parce que dans les bouquins, on me met, j'ai fait ci, mais j'ai jamais fait ça. Alors on dit, oh, c'est pour le Gilgul passé, ta réincarnation, tu as fait cette bêtise-là. Ça se peut. Et maintenant, je vais faire tout ça sur les péchés de ma réincarnation. Donc j'étais en boîte, et j'ai été en boîte, comment j'ai osé faire ça ? Et tu te mets à pleurer. Après, j'ai mis du poil à gratter dans l'oreille de mon voisin, comment j'ai osé faire une chose pareille ? J'ai fait un clin d'œil à la voisine, chasse et shalom, d'accord ? Et etc. Tu mets tout ce qu'il y a à faire. Hein ? À voix haute, sans que ton prochain entende. Ça veut dire en chuchotant. En chuchotant.
Ça fait une liste énorme.
Pardon ?
Ça fait beaucoup.
On a tout le temps, Yom Kippour. Ça passe avant tout. Attends, elle n'est pas si longue là, la liste, tu verras. Tu n'auras pas plus de 100. De 100 à... Hein ?
Bien déjà
100. 100, ça prend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. 100 ? Allez, va que ça prend un quart d'heure. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, je regrette. Bon, vas-y, prends ton temps, prends une demi-heure. C'est ça, c'est l'essentiel de la fête, c'est ça. L'essentiel, c'est ça. Tout ce qu'on a autour, les slichot, c'est histoire de nous amener à ça. L'essentiel, c'est ça. C'est vraiment l'essentiel. Et ça, on peut le faire le jour, la nuit, à minuit, au milieu de la nuit aussi, il n'y a aucun problème. Tout le jour de Kippour, il est complètement sain.
Chaque année, on dit ce qu'on regrette, on regrette toujours. Chaque année, on dit qu'on regrette toujours la même chose. Mais alors, quand on se fait, on regrette toujours la même chose, après, on recommence après, au fur et à mesure de l'année.
Regarde, c'est vrai. Je fais un cours dernièrement. Comment ne pas retomber ? Non, faire tchouva et retomber. Il décrit Sheva Yapol Sadik Vakam. 7 fois le Sadik qui tombe, il se relève. 7, c'est pas que c'est forcément 7, ça peut être cyclique, c'est-à-dire que c'est même 20 fois, 700 fois, 7000 fois. Une Tshuva solide, quand quelqu'un prend sur soi de façon sincère de ne pas retomber, il ne retombera pas tout de suite. Si le lendemain il retombe déjà, c'est-à-dire que ça, tu vois, c'était de la blague. Il n'était pas sérieux. Quelqu'un qui est sérieux, qui regarde vraiment et qui prend sur soi de changer et réfléchit tout Yom Kippour, qu'est-ce que je vais faire pour tenir bon ? Il met des stratégies en place et on ne tombera pas si vite. Donc, il a gagné un mois, c'est déjà énorme. Un mois sans péché, il a gagné 6 mois, puis il a gagné tout pour toujours. C'est énorme. Comprendre chaque petit pas qu'on fait en spiritualité, il vaut des milliards, parce qu'il est infini. L'impact est infini. C'est combien ça vaut des milliards. C'est énorme. Donc c'est déjà très très grand. Ensuite, il est retombé. Yom Kippour prochain, il refait Tshuva. Ce sera plus facile. Parce qu'il a déjà tenu un peu. Il peut de nouveau faire Tshuva et essayer de mieux tenir. Il y a des rabbins qui ont donné un exemple. Ça ressemble à de la terre vierge. Tu creuses un trou. C'est difficile. Tu pioches, tac, la pelle, hop, difficile. Maintenant, le trou, il est là. Mais avec les intempéries, tout ça, toute l'année, il se remplit de nouveau de terre. Tu vas l'année prochaine, tu recreuses. La terre est plus molle, plus facile. Bon, une année passe, de nouveau, il se nouveau rempli. Tu reviens pour recreuser, encore plus facile. Aux forces des années, quand tu vas sur une chose, au bout d'un moment, tu acquiers. D'abord, tu deviens intelligent, tu comprends comment tu es retombé. Donc, faire attention à ne pas retomber de nouveau. Quelle fréquentation, c'est très souvent à cause des gens pas bien qu'on retombe, qui n'est pas fréquenté. Du moussard, j'ai pas assez lu du moussard tous les jours pour essayer de faire attention sur ce point-là. J'ai pas prié assez à Dieu sur ce point-là. Et comment savoir qui, comment. Des gens font plus attention. On tiendra mieux dans ta chaîne. C'est ce que Dieu nous demande à ce moment-là. C'est ça le grand mystère du jour. Mettre en place les stratégies pour ne pas retomber. Ken.
On va s'asseoir pendant les.
Pardon ? Les moments où on peut s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir. Quand on ouvre le Echal, il faut rester debout. Toute l'année, il est là. Pendant Yag Midot, 13 minutes de miséricorde, on reste debout. Tout ce qu'on dit entre aussi, on reste debout. Le reste, on peut rester assis.
Est-ce qu'on peut étudier pendant qu'il faut ?
On doit étudier.
Ouais, pas le temps.
Mais du coup, vous dites qu'il faut prendre le temps pour la prière. Est-ce qu'il y a un temps d'étude ?
Alors, l'essentiel, c'est la prière et la tchoua. Maintenant, il te reste du temps, étudie aussi. Les ventes. 100 euros, 200 euros, ça prend 10 minutes. Vas-y, étudie en attendant.
J'ai un tchouva, ça.
Ce que tu veux.
Pendant la pause.
Prends du moussard sur la tchouva, c'est merveilleux. Ouais, dans les pauses.
Et c'est bien de ne pas dormir entre vendredi et samedi, le soir, quoi. Et d'étudier.
Toute la nuit de Kippour, ne pas. Des grands rabbins ont fait ça. Mais après, moi, j'ai un voisin qui. Ça dit qu'un voisin à la prière, il est. Alors, toute la journée qui pote, comme ça, était comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine de prendre le risque. Le Stipler, avec son fils, le Abraham Kanevski, étudiait la nuit du Kippour, tout Maseret Kippour, du matin du soir au matin, il finissait Maseret Yoma. D'accord ? Et après, toute la journée, ils allaient. Bon, ça, c'est des grands. Je pense qu'il faut bien dormir. Se veut honnête si possible, c'est bien aussi. Et bien prier, bien faire tchouva, bien pleurer. Et prendre sur soi, tenir bon après. Tenir bon. Et comme je dis, l'essentiel, prendre une chose, petite contiendra bien. La Israël Salinter, il conseille prendre sur soi d'étudier Moussard. De tous les conseils possibles, imaginables, des petites choses à prendre, prendre sur soi d'étudier Moussard. Si pas tous les jours, c'est possible tous les jours, pas tous les jours, 4 fois par semaine, prendre une étude fixe de Moussard, dit c'est la plus grande chose que ça, ça nous permettrait d'avancer après. Une fois, quelqu'un est venu demander à ce rabbin, le Israël Salinter, il lui a demandé, monsieur le rabbin, moi je suis un homme d'affaires très pris, je n'ai pas le temps. J'ai 10 minutes par jour où je peux étudier. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Tagmara, Dalacha, Moussar, Ashkafa, Kabbalah, qu'est-ce que je fais ? Il lui a dit, que du Moussar. C'est vélo, on dit, mais que du Moussar, il ne saura pas comment il croit Shabbat, il va faire le Shabbat sensé, il ne saura rien du tout. Enfin, Choumash Rashi au moins, qu'on sache qu'il a la paracha. Il sait du Moussar, il verra qu'il a beaucoup plus que 10 minutes par jour. C'est ce qui permet d'avancer. Alors que Dieu nous bénisse tous, d'être inscrit dans le livre de la vie. Les rabbanim ont annoncé qu'il y a des risques que cette année soit extrêmement dure. Il faut beaucoup prier.
On peut annuler les xérotes.
On peut annuler toutes les xérotes. Faire tchouva, on peut tout annuler. Rien n'est fixé jusqu'à l'année là. Ça dépend de nous. Et on sait qu'en France, la situation n'est pas aussi bonne qu'un temps. Elle peut facilement devenir désastreuse. Il y a besoin de beaucoup de miséricorde divine. Tout se joue durant ces jours-ci. À quel point Dieu va voir qu'on va faire des efforts pour se rapprocher de lui. Et si on fait cet effort-là, il nous protégera. Bahou Hadonai, comme on va mettre.